Les grands entretiens de Storia Voce. Une émission de la rédaction de Storia Voce. On retrouve Marie-Gwen Carichon.
Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur Storia Voce pour une nouvelle émission de nos grands entretiens. Parfois, c'est la littérature qui nous raconte l'histoire avec un grand H, les longs poèmes qui se présentent à nous comme des fragments d'archives. La naissance de Rome est aussi énigmatique que le sont les récits qui lui sont consacrés, notamment depuis les Grecs. Les anciens établissent sa fondation au 21 avril 753. C'est Romulus qui en aurait posé la première pierre. Il est le descendant d'Énée. Énée est donc le héros de la guerre de Troie et le personnage principal de l'Énéide de Virgile, dont le débarquement sur les plages du Tibre constitue un autre moment fondateur de l'histoire de la ville. Mais alors quel crédit accordé aux textes littéraires, souvent écrits bien des années après les faits? Quelle source soulever alors pour dégager le vrai de la légende? Et pourquoi ce vif intérêt des anciens pour la ville de Rome? Cette histoire de Rome aux origines est le fruit d'un travail au carrefour donc de plusieurs sciences, la mythologie, la littérature, l'histoire bien entendu, l'archéologie, la philologie. De facto, cette histoire des origines ne peut s'écrire que grâce à la confrontation des hypothèses issues des différentes disciplines que nous venons d'évoquer. Pour répondre à nous toutes nos questions, nous recevons aujourd'hui, au micro de Storia Voce, Alexandre Grandadi, grand spécialiste de la Rome antique. Alexandre Grandadi, bonjour.
Bonjour Marie-Gwen Carichon et bonjour aux auditrices et aux auditeurs de Storia Voce.
Vous êtes historien de Rome, professeur à la Sorbonne et également archéologue. Votre livre « Les origines de Rome » publié aux presses universitaires de France vient d'être édité pour la troisième fois dans cette collection « Que sais-je ». Vous avez également publié en 2017 aux éditions Perrin le livre « Oups, histoire de la ville de Rome, des origines à la mort d'Auguste » qui a reçu le prix de Chateaubriand. Et nous reviendrons donc dans cet ouvrage dans l'émission. Une première question donc sur votre ouvrage « Les origines de Rome », Alexandre Grandadi. Qu'entendez-vous par le terme « origine » ?
Alors, c'est une question très embarrassante, mais très pertinente. J'ai adopté ce terme « origine de Rome », bien que je sache que ce terme « origine » est aujourd'hui très suspect du point de vue scientifique, parce que l'origine, ça implique qu'il y a quelque chose qui commence totalement, qui n'existait pas avant, et un historien, n'importe quel historien, sait bien que rien ne commence jamais vraiment. Mais si on pousse loin ce raisonnement, tout se dilue dans une espèce de continuité informelle et nébuleuse, et il y a tout de même une réalité historique et archéologique, qu'à un certain moment, il y a une ville de Rome ou une communauté romaine qui prend de l'importance, qui n'en avait pas avant. Et donc, j'ai repris, bien qu'ayant un petit peu hésité, mais j'ai repris l'appellation origine de Rome, qui définit à la fois un sujet, celui de ce livre, et aussi, vous avez déjà eu l'occasion de commencer à le dire, et on va y revenir, et aussi tout un domaine scientifique. Tellement cette question est, depuis quelques décennies, on va dire depuis un demi-siècle, venue au premier plan de la recherche scientifique sur l'Antiquité.
Alors, vous parlez de recherche scientifique, et pourtant, quand on pense à la naissance de Rome, on pense avant tout à des poèmes, à des textes littéraires, Alexandre Grandadi. Alors, comment on étudie, en fait, cette origine de Rome? Est-ce qu'on commence par la littérature? A-t-elle finalement un lien avec la vérité historique?
C'est toute la question que, finalement, l'Europe savante, les chercheurs se posent depuis, on va dire, le début du XVIIe siècle. Qu'est-ce qui, dans ces textes littéraires, qui nous racontent les origines de Rome, le pluriel est mieux que le singulier, hein, il y a plusieurs causes, il n'y en a jamais une seule, qu'est-ce qui, dans ces textes littéraires, qui datent de plusieurs siècles après les supposés événements qu'ils sont censés raconter, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Alors, pour résumer, et pour faire l'histoire des interprétations, je dirais que au Moyen-Âge, jusqu'à la Renaissance comprise, dans Tite-Live, par exemple, puisque le premier livre de Tite-Live, de l'historien Tite-Live, est consacré au début de Rome, historien Tite-Live qui qui écrit à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ. Il a commencé sans doute son travail dans les années 30, 27 avant Jésus-Christ. Et il est mort en 12 ou en 17 après Jésus-Christ. Donc, en gros, il écrit 7, 8 siècles après les origines de Rome. Qu'est-ce qui peut être vrai dans ce qu'il nous raconte sur Romulus, etc. Et je parle pas... Vous avez parlé d'Énée, vous avez raison, mais enfin, limitons-nous à Romulus, puisque c'est Romulus le... celui qui passe pour le fondateur de Rome. Eh bien, la réponse de la Renaissance jusqu'à la Renaissance, la réponse du Moyen-Âge jusqu'à la Renaissance, c'est tout est vrai. Et puis, à partir de la fin de la Renaissance et surtout à partir du début du XVIIe siècle, le doute commence à arriver. Et dès le XVIIIe siècle, allons, essayons d'aller un peu vite, mais dès le milieu du XVIIIe siècle, l'idée va se répandre que finalement cette tradition, parce qu'elle est littéraire et seulement littéraire, et parce qu'elle est bien plus tardive que les faits qu'elle raconte, cette tradition est peut-être fausse. Et ce soupçon, il devient très très fort à partir du début du XVIIIe siècle en France, autour de ce que j'ai appelé, parce que je l'ai un peu étudié, la controverse de Paris entre des érudits de l'Académie des inscriptions, et il va être formalisé, et avec un grand talent, par un historien, un érudit qui vit aux Pays-Bas, qui est un descendant, qui est protestant, descendant de protestants chassés par la révocation de l'édit de Nantes, qui s'appelle Louis de Beaufort. Dissertation sur l'incertitude des cinq premiers siècles de l'histoire romaine, 1738, deuxième édition, 1750. Et à partir de là, tout le 19e siècle va développer un point de vue, on va dire sceptique, un point de vue critique sur la tradition littéraire, sur les origines de Rome. Et tout ça va se faire, va redémarrer en Allemagne à partir de quelqu'un qui s'appelle Niebuhr, Bartholdt Georg Niebuhr. Je raconte tout ça, n'est-ce pas, dans le que sais-je, le livre que vous voulez bien citer, les origines de Rome. Et je dirais que jusqu'à une époque récente, et pour répondre le moins longuement possible à votre question qui, vous le voyez, touche à l'essentiel. Faire preuve d'intelligence critique, faire preuve de scientificité lorsqu'on étudiait ces questions, c'était d'une manière ou d'une autre toujours montrer que la tradition littéraire était fabriquée, artificielle et fausse. Or, nouveauté depuis une quarantaine d'années, il ne paraît plus possible de rester sur cette ligne. À cause de l'archéologie, bien sûr, on va y revenir, mais aussi à cause de tout un ensemble de disciplines annexes de l'histoire qui tendent à montrer que cette tradition littéraire, eh bien finalement, elle n'est peut-être pas si fausse que le 18e et le 19e siècle l'avaient cru. Et tout le débat, il reste là, et il est très vivace, et c'est, je crois, ce qui fait son intérêt.
Alors, vous avez parlé de textes littéraires, d'historiens. Est-ce que la première chose qui nous permet peut-être de porter un peu de croire à la vérité historique de ces textes, c'est les similitudes qu'on retrouve entre les différents historiens et les différents poètes qui ont parlé de cette naissance de Rome.
Oui et non, parce que cette similitude, elle pourrait très bien être due au fait qui paraît à peu près prouvé par la recherche, c'est-à-dire que pour dire les choses rapidement, les textes grecs qui parlent des origines de Rome sont fragmentaires. Ce sont des fragments d'auteurs qui nous ont été rapportés essentiellement par deux auteurs tardifs, enfin, par rapport aux événements, qui sont Denis d'Halicarnasse d'une part, qui est à la même époque que Tite-Live, c'est-à-dire fin du 1er siècle avant Jésus-Christ. Un peu après, il commence, lui, à écrire son premier livre de ses antiquités romaines en 7 avant Jésus-Christ, et Plutarque. Plutarque, lui, c'est le début du 2e siècle de notre ère. Et ils ont cité des auteurs du 5e, du 4e siècle avant Jésus-Christ. Mais ils les ont cités, il y a une phrase de temps en temps. Donc ça permet tout de même ça ne permet d'avoir qu'une vue assez approximative de ce qui se disait chez les Grecs sur la Rome des origines au 5e et au 4e siècle avant Jésus-Christ. Ce qu'on sait par ailleurs, c'est que les Romains, la tradition romaine, Romulus fondant Rome, Rémus, etc., elle a dû se fixer au 4e siècle avant notre ère. Elle devient canonique pour des, j'ai pas, c'est pas la peine de faire la démonstration, mais disons, elle devient canonique vers la, au plus tard, à la fin du IVe siècle avant notre ère. Et donc, il se peut très bien que tous les textes que nous ayons dépendent de cette normalisation du IVe siècle avant Jésus-Christ. Vous voyez, qu'on peut, qui est le stade auquel on peut remonter sûrement. IVe siècle avant Jésus-Christ. Avant, c'est, moi je pense qu'on peut remonter avant, mais certains de mes collègues sont pas d'accord. Vous voyez, IVe siècle avant Jésus-Christ, Romulus, Rémus, les jumeaux, ça semble à peu près acquis. Mais, ne serait-ce que parce qu'au début, dans le premier tiers du IIIe siècle avant Jésus-Christ, il y a des Romains qui font faire en plein Rome une statue de bronze représentant la louve et les jumeaux. Donc ça prouve que la légende, elle vient pas d'être créée. Donc on peut dire, voyez, on est au début, plutôt au début du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Donc la légende, elle date au moins de la fin du IVe, c'est tout bête. Et donc on ne peut pas dire, pour répondre à votre question, que la relative uniformité sur un certain point, un nombre de points des traditions littéraires antiques que nous avons actuellement prouverait leur véracité. D'autant plus qu'il ne faut pas exagérer l'unicité, l'unité, l'uniformité de ces traditions antiques. Si vous regardez le détail, j'ai un collègue anglais qui l'a fait récemment, enfin récemment, il y a déjà 20 ans, qui s'appelle le seul professeur Peter Wiseman, on peut identifier sur Romulus et Rémus, sur la fondation de Rome, à peu près 63 versions différentes. Vous voyez ? Alors bien sûr, on appelle versions différentes des versions qui parfois ne divergent que sur peu de points. Mais enfin, il y en a, dans le bouquin de Wiseman, vous avez 63 versions différentes. Alors même si je pense qu'on peut réduire à une vingtaine, ça fait beaucoup tout de même. Donc ne nous exagérons pas l'uniformité de ces versions, ce qui pose évidemment problème. Ce qu'il faut dire tout de même, c'est que sans doute, encore une fois, à partir de au moins de la fin du IVe siècle avant Jésus-Christ, il y a une version, celle de qu'on connaît, Romulus, Rémus, qui devient la version majeure, en tout cas la version majeure pour les Romains.
Alors cette version majeure, cette version officielle de l'histoire de Rome et de ses débuts, qui date du IVe siècle, qu'est-ce qu'elle dit grosso modo sur...
Qui date du IVe siècle au plus tard.
Au plus tard,
Moi, je pense qu'elle date d'avant, mais vous voyez, essayer de faire une démonstration scientifique, c'est distinguer entre ce qui est sûr et ce qui est possible ou probable. On peut dire que les savants d'aujourd'hui estiment sûr qu'elle date au moins du IVe siècle avant, voilà.
Donc cette version qui date au moins du IVe siècle, Alexandre Gandadi, qu'est-ce qu'elle dit sur le commencement de Rome ? Comment, à qui elle attribue donc cette fondation ? Comment est-ce que Rome commence à étendre son empire ? Et finalement, sur quoi les Romains se retrouvent ?
Alors les éléments qui se retrouve dans cette version et qu'on retrouve déjà dans d'autres versions antérieures, c'est d'abord le lieu de cette fondation de Rome, de ce commencement à l'existence de Rome. Le lieu, c'est ce que j'ai appelé dans mon livre Ourps l'hypercentre, c'est-à-dire le Palatin, mais pas seulement le Palatin, le Capitole et la vallée du Forum. C'est vraiment les trois lieux majeurs où se joue le surgissement d'une communauté ou d'un ensemble de communautés qui préexistaient sans doute depuis longtemps, mais leur surgissement en un ensemble unitaire, qu'on va appeler la cité de Rome. Donc le lieu, élément commun. Deuxième élément commun, malgré ce qu'on peut lire parfois, et dans mon petit livre sur les origines de Rome, j'ai insisté sur le fait que on dit parfois il y a beaucoup de dates de la fondation de Rome, mais quand vous regardez, c'est vrai, il y en a plusieurs. 753 n'est qu'une des dates possibles, sans doute adoptées par Varron, le très grand érudit, le très grand savant de la fin de l'époque républicaine, qui est mort à 90 ans passé en 28 avant Jésus-Christ. Mais quand vous regardez les autres dates, elles sont pas si différentes que ça. On est toujours, il y a une autre date, c'est 748 avant Jésus-Christ. Elle, on sait qu'elle était déjà en circulation au IIIe siècle avant notre ère. 748-753 avant Jésus-Christ, la belle affaire. Hein. Vous avez une date plus qui est plus vers la fin de qui est plus vers la fin du 8e siècle, mais vous avez tout de même des dates qui sont assez proches les unes des autres. C'est toujours, on pourrait dire, comme on dit aujourd'hui, le mi-temps du 8e siècle avant notre ère. Alors cela dit, vous avez une date, vous avez deux attestations, une grecque, une romaine, pour une date qui serait plutôt première moitié du 9e siècle avant notre ère. Mais à part, donc il y a le poète, il y a quelqu'un qui s'appelle Timée, un auteur grec du 4e siècle avant notre ère, et puis vous avez une phrase, un vers chez le poète Ennius, dont nous n'avons que des fragments, dans son grand poème Les Annales, Annales, il semble dire, mais c'est controversé, mais enfin il semble dire que Rome existe depuis une chronologie qui correspondrait plutôt au 9e siècle qu'au 8e siècle. Mais à part ces deux exceptions, c'est le 8e siècle. Donc il y a quand même une relative uniformité de date. Donc vous voyez, une uniformité de lieu, l'hypercentre, de date, le 8e siècle avant notre ère. Et puis il y a une uniformité, une unité dans la tradition qui présente le fondateur ou les deux fondateurs, parce que parfois Rémus est quasiment aussi important que Romulus dans certaines traditions, ils sont d'origine albaine. Alors qu'est-ce que c'est que Albe? C'est dans la légende Alba Longa, c'est ce qui passe pour être la métropole de Rome, la ville d'où Rome dont Rome serait l'émanation. J'ai passé une vingtaine d'années de ma vie à travailler sur Alba Longa pour terminer par la conclusion qu'elle n'a sans doute pas existé. Mais, oui, j'aime bien dire ça, ça fait rire les étudiants, mais Alba Longa, c'est le nom pris par, les manifestations de ce que les archéologues appellent la culture latiale, qu'on peut appeler la civilisation latine, dans les monts albains, c'est-à-dire on est ce qu'on appelle aujourd'hui les Castelli Romani, on est à une trentaine de kilomètres au sud-est de Rome, une zone arborée autour des deux lacs, lac de Castel Gandolfo, lac de Nemi, qui encore aujourd'hui sert de lieu de promenade aux Romains et qui s'urbanise malheureusement un peu vite aujourd'hui, mais qui est le lieu d'où semble avoir, d'où la tradition place l'origine des fondateurs, qui s'appellent Romulus, qui s'appellent Rémus ou autre. Donc vous voyez, il y a trois éléments communs. Le lieu, le palatin, le forum, la date, le 8e siècle avant Jésus-Christ, l'origine albaine. Et puis il y a un quatrième élément qu'on retrouve dans presque tous les récits, c'est que cette fondation de Rome serait liée à des rites qui correspondent à ce qu'on peut appeler techniquement la divination augurale. C'est-à-dire, en gros, regarder les oiseaux pour savoir ce qui... Non pas pour savoir ce qui va se passer, parce qu'il ne s'agit pas de deviner l'avenir, mais pour savoir si les dieux, et en particulier le plus grand d'entre eux, celui qui patronne tout ce qui est du jeu, tout ce qui est du ressort de la souveraineté d'une communauté, Jupiter, pour savoir si Jupiter donne son accord ou pas à la fondation de la ville. Et puis si on peut peut-être trouver un cinquième élément commun, donc des rites, vous voyez, des rites religieux, qui passent par le fait de prendre les auspices. Hein. Prendre les auspices, c'est une expression qui est dérivée du latin, qui veut dire que le roi de Rome, le premier roi de Rome, Romulus, peut-être aidé d'un technicien, un augure, ou à moins qu'il ne soit lui-même un augure, comme le dit la tradition, il regarde en l'air, il voit les oiseaux, et il lit dans le nombre des oiseaux, leur vol, sans doute aussi le genre d'oiseau que c'est, il lit l'approbation de Jupiter. Et puis, le dernier élément commun à tout ce corpus sur la fondation de Rome, ça passe par l'implantation, l'installation d'une délimitation, d'une limite, au pied du Palatin, en haut du Palatin, à mi-pente, on ne sait pas trop, mais il y a un mur, il y a une limite qui est tracée. Donc vous voyez, pour répondre à votre question, il y a cinq éléments communs dans les traditions littéraires, qu'elles soient grecques, qu'elle soit d'expression latine. Alors, on les trouve pas toujours tous les cinq en même temps, hein, mais c'est le lieu, le Palatin, le Capitole, la date, milieu du 8e siècle, sans entrer trop dans les détails, l'origine latine et plus spécifiquement albaine, l'existence de rites religieux liés à la prise d'hospice et sur le terrain la construction d'une délimitation, d'un mur. Ou alors, d'une barrière, ou d'un fossé, on ne sait pas trop. Voilà, la construction de quelque chose sur le terrain.
Alors, ces éléments que vous venez d'évoquer sont donc dans la tradition littéraire. Et qu'est-ce que l'archéologie peut nous apporter pour confirmer l'existence de la fondation de Rome sur le Mont Palatin, le fait que l'origine soit albaine? Qu'est-ce que l'archéologie vient proposer pour cette histoire des origines de Rome?
Eh bien, l'archéologie, je dirais, propose des données qui, au contraire des données littéraires, sont des données contemporaines, des événements ou des prétendus événements. C'est-à-dire que le texte de Tite-Live, il date du 1er siècle avant Jésus-Christ, il est transmis par des manuscrits dont les plus anciens sont du 9e siècle de notre ère, donc il y a un énorme décalage. L'objet archéologique, il peut être du 8e siècle avant Jésus-Christ, ce qui en archéologie est assez récent, mais il peut être du 9e, du 10e, du 12e, voire même du 13e siècle avant Jésus-Christ, puisque personnellement, j'essaie d'être un spécialiste des origines de Rome depuis à peu près mes 22-23 ans, et décennie après décennie, j'ai vu reculer dans le temps le début archéologique de cette culture glaciale. Quand j'étais plus jeune, quand j'avais votre âge, mademoiselle, le début de la culture glaciale, c'était 9e, 8e siècle avant Jésus-Christ. Aujourd'hui, on a trouvé et on donne des datations pour le 12e, voire le 13e siècle avant Jésus-Christ. Donc l'horizon chronologique s'est étendu. On est passé, je dirais, d'un horizon Romulus à un horizon aîné. Si on prend, aîné n'est pas un personnage ayant réellement existé, mais il est censé avoir existé à la fin de l'âge du bronze, 12e siècle avant Jésus-Christ. Ben maintenant, des vestiges du 12e, on en a. Et on les identifie, pour certains, comme typiques de la région du Latium. Donc, l'archéologie, elle apporte des objets qui sont contemporains, des événements ou de la possibilité d'événements. Donc ça, c'est une possibilité extraordinaire. Et ces objets ne sont transmis sans médiation, sans intermédiaire, sans filtrage. Et alors, il y a le filtrage de notre interprétation. Il faut d'abord les avoir trouvés. Mais ça, ce sont des fouilles qui permettent. Parce que ces objets, c'est quoi? En général, ce sont des contenus des tombes. Il se trouve qu'à partir du, disons, 12e siècle, 11e siècle avant notre ère, les gens qui habitaient dans la région de Rome, sur le site même de Rome et autour, dans la région qu'on appelle le Latium, dont les habitants sont dits latini, c'est pour ça qu'on parle d'une langue latine, et la langue de Rome, c'est le latin, il se trouve que les communautés humaines, sans doute composées de peu de personnes, mais qui, à partir du 13e, 12e siècle, peuplent cette région, ont la bonne idée de se faire enterrer avec des objets qui ont traversé le temps. Lorsqu'on les retrouve, on peut avoir la possibilité de les retrouver intacts. Par exemple, les chefs de ces petites communautés se font incinérer et les cendres sont placées dans ce vestige archéologique extraordinaire qu'on appelle une urne cabane. Une urne en terre cuite qui a la forme d'une cabane de ces époques reculées. Donc on peut savoir à quoi ça ressemble, à une case, hein, des villages de l'Afrique subsaharienne tels qu'on les... Je ne sais pas si tels qu'ils existent encore, mais tels que les explorateurs du 19e siècle les trouvaient. Hein. Et ce sont des vestiges tout à fait extraordinaires qui donnent une vision très concrète. Et il y a des armes miniatures, il y a du mobilier miniature, mobilier au sens archéologique, des objets miniatures. Donc, il faut se demander pourquoi c'est miniaturisé, pourquoi. Mais il y a des rites religieux, vous voyez, et il y a des objets. Il y a de la vaisselle aussi. Donc, et à partir du 8e siècle, l'inhumation devient prédominante. Donc, on retrouve en abondance des tombes avec... on retrouve des squelettes et avec tout ce qui va avec, les traces des habits, les traces des bijoux surtout. Les femmes du Latium, 8e, 7e siècle avant notre ère, aimaient bien, au moins pour ce qui concerne l'élite dirigeante, aimaient bien les bijoux et on retrouve ces bijoux. Et on peut en déduire, on retrouve de la vaisselle, on peut en déduire des tas de conséquences. Et puis, depuis quelques décennies, parce que c'est plus difficile à fouiller, on retrouve aussi des habitats. Donc, on retrouve pas les cabanes dont je vous parlais, mais on retrouve les trous de poteaux qui les poteaux qui soutenaient, voyez, le toit de ces cabanes. Beaucoup de nos auditeurs reconnaissent les fameux fonds de cabane qu'on trouve sur le Palatin, qui ont été trouvés au tout début du XXe siècle. Vous savez, les 5-6 cabanes dont on voit du côté du temple de la Magna Mater, dans la partie sud-ouest du Palatin, vous avez quelques dizaines de mètres carrés occupés par des fonds de cabanes du 9e, 8e siècle avant notre ère. On appelle ça les cabanes de Romulus, pour faire image, mais c'est très frappant parce qu'on peut restituer le plan de la cabane, de chaque cabane, grâce au trou des pieux qui soutenaient la toiture. Donc on a une vision, grâce à l'archéologie, une vision incroyablement concrète, précise, et comme nos auditeurs le savent, les techniques de l'archéologie ne cessent de progresser. C'est-à-dire que maintenant, quand on trouve un site archéologique latial, c'est-à-dire entre le 12e siècle avant Jésus-Christ et le 5e siècle avant Jésus-Christ, c'est ce qu'on appelle la culture latiale, que les archéologues ont divisé en plusieurs périodes, en gros en 4 périodes. Et la période de la fondation de Rome, ça correspondrait à la période 3B. Et maintenant, même le B, on le divise en 1, voire 2, voire 3 phases. Et aujourd'hui, avec l'archéologie, toute une série de sciences, de disciplines annexes, de techniques annexes font leur entrée sur les chantiers de fouilles, ce qui fait qu'on est capable, quand on trouve une tombe, si on trouve un squelette, on est capable de dire, si on trouve un squelette de tête et de mâchoire, de dire ce que la personne avait mangé dans son existence, quel était son régime alimentaire. Et on est capable aussi, grâce à la paléopalynologie, de restituer les environnements naturels de ces petites communautés villageoises entre le 10e, 12e et 6e siècle avant Jésus-Christ, qui parsemaient le site de Rome et la région du Latium. Donc on arrive à des précisions absolument fascinantes. Et toutes les enquêtes actuelles qui sont faites sur les carottages des pôles ont aussi des répercussions sur les études de paléoclimatologie du monde antique, et en particulier dans le Latium. Vous avez aussi des études de gisements. L'Italie centrale est une région très riche en lacs, et ces lacs, je vois par exemple le lac Albin, le lac d'Albano, le lac de Castel Gandolfo. Malheureusement, il a perdu, depuis que je m'y intéresse, il a perdu à peu près 17 mètres. Et donc on retrouve des villages de l'âge du bronze ont émergé, et on retrouve des paléosols qu'on peut interroger, et d'année en année, je suis absolument abasourdi, stupéfait par la précision, restitution des données qui sont apportées par nos collègues archéologues. Alors, je ne suis pas moi un archéologue de terrain, mais je suis quelqu'un qui utilise au maximum les résultats de l'archéologie, hein, parce que effectivement, ils renouvellent notre approche de ces textes littéraires qu'on avait cru être seulement littéraires. Et on s'aperçoit de plus en plus que ces textes véhiculent toute une série d'informations absolument fascinantes. Alors, il n'y a pas que l'archéologie.
Vous travaillez sur donc l'archéologie, les textes littéraires, et quelles sont les autres grandes disciplines qui peuvent nous aider à comprendre les origines de Rome?
Alors, il y en a beaucoup, mais pour parler de ce qui s'est fait au XXe siècle, par exemple, quand j'étais étudiant, quand je commençais à m'intéresser à ce domaine, la discipline scientifique qui permettait d'explorer les origines de Rome, c'était la mythologie comparée. Alors, ça ne veut pas dire que il fallait... Alors, évidemment, elle était dominée, cette discipline, par la grande figure de Georges Dumézil, avec sa théorie des trois fonctions, qui aurait formaté toute la tradition des origines de Rome.
Est-ce que vous pouvez expliquer un peu pour nos auditeurs cette thèse?
Alors, Georges Dumézil, qui était un très grand savant, qui au départ est un linguiste, spécialiste de linguistique indo-européenne, donc quelqu'un qui reconstitue les états indo-européens des différentes langues connues, notamment le latin, qui est une langue indo-européenne. C'est peut-être pas la peine que j'explique ce que c'est que...
Là, c'est... Oui, non.
Voilà. les indo-européens. Et donc, Georges Dumézil était passé, si j'ose dire, de la linguistique à la mythologie comparée, et d'une certaine manière à l'histoire. C'est-à-dire qu'il prétendait retrouver non seulement des mots, des racines de mots communes, mais aussi des concepts. Et il avait élaboré une théorie qui a eu beaucoup de succès, peut-être aussi en raison de sa simplicité grandiose, selon laquelle, les Indo-Européens, mais ça aurait aussi passé chez les Latins, auraient eu une conception du monde divisée en trois fonctions, trois pôles, trois polarités. Souveraineté, avec un aspect force et un aspect religion. Un aspect droit et un aspect religion, force et abondance. Romulus et Numa seraient les deux, et ils voyaient la tradition sur les rois de Rome, puisque la tradition littéraire dit qu'il y a eu 7 rois de Rome, hein, de Romulus à Tarquin le Superbe. Donc pour lui, les deux premiers, Romulus et Numa, seraient l'illustration de ce qu'il appelait la première fonction. Romulus, illustration du côté de la force. Numa, illustration de la souveraineté. Romulus, illustration de la souveraineté du côté du droit et de l'instauration des normes. Numa, illustration de la souveraineté du côté de la religion. Ensuite, Tullus Hostilius, qui est le conquérant et le destructeur d'Albe la Longue, serait l'illustration de la force. Et puis le quatrième roi, Ancus Marcius, qui est, selon la tradition, le conquérant de Ostie, le créateur, le fondateur d'Ostie, le port de Rome, serait l'illustration pour lui de l'abondance, puisque le port apporte des denrées et ça serait l'illustration de l'abondance. Et puis après, Tarquin l'Ancien, Servius Tullius, Tarquin le Superbe, il y voyait c'était moins net, voyez, il y retrouvait encore, mais ce sont surtout ses élèves à ce moment-là qui ont travaillé sur cette deuxième partie de la monarchie romaine. En tout cas, pour les quatre premiers rois, selon Georges Dumézil, rien n'était historique, absolument rien, tout s'expliquait par cette fameuse théorie des trois fonctions, à laquelle personnellement je ne crois pas du tout, mais c'est une théorie qui, il est vrai, a le mérite de la simplicité, et qui, il est vrai, il faut voir qu'elle a été élaborée, d'après le témoignage de Dumézil lui-même, c'est pas Paul Claudel au 13e pilier de Notre-Dame, mais presque, il a eu une révélation un jour, et il date très précisément cette révélation sur cette théorie de 1938. Il faut bien voir qu'en 1938, on ne connaît quasiment rien. On connaît un petit peu, mais quasiment rien de l'archéologie, de la culture, de ce qui sera ensuite décrit comme la culture glaciale. En 1938, qu'est-ce que vous connaissez? Qu'est-ce qu'on peut connaître de l'archéologie des origines de Rome? Vous avez des vestiges assez abondants sur les monts Albains qui ont émergé au 19e siècle. Il y a beaucoup d'urnes cabanes, mais on ne sait pas très bien les dater et on ne s'y intéresse pas beaucoup. Aucun corpus n'existe, par exemple, en 1938. L'archéologie, vous pouvez l'utiliser à partir du moment où vous avez des corpus. Et vous avez peu de corpus. Et en tout cas, ils sont peu consultés. Vous en avez un, à vrai dire, qui a été élaboré par un Italien qui s'appelle Pinza. Mais il est en italien, il est très archéologique. Et il est, Dumézil, par exemple, ne l'utilise pas beaucoup. Et sur le site de Rome, vous avez des urnes cabanes trouvées par Giacomo Boni, le grand archéologue du début du XXe siècle. Mais c'est tout. Et ces vestiges archéologiques ne sont pas encore, par exemple pour ceux de Rome, ne sont pas encore rassemblés en corpus. Et finalement, l'archéologie ne joue qu'un rôle très très mineur encore en 1938 dans la réflexion sur les origines de Rome. Donc la mythologie comparée, et puis comme on s'est quand même aperçu que ces vestiges sont plus anciens que Romulus, les urnes Camanes, c'est pas 8e, c'est plutôt 10e, 9e, même à l'époque on les date du 9e, donc on se dit Romulus est faux puisque les urnes Camanes datent du 9e. Et on pousse pas très loin, pas tellement plus loin le raisonnement. Donc le mérite de Dumézil, c'est au moins de faire tout de même avancer la recherche sur du côté des mythes. Et je dirais que son apport pour moi, l'apport de Dumézil qui reste aujourd'hui, c'est pas dans sa théorie qui, d'une certaine manière, est toujours vraie. Toute société humaine est un peu ordonnée sur l'épaule de la souveraineté, de la force et de l'abondance. Et c'est tellement toujours vrai que finalement c'est une théorie qui perd un peu de sa validité, quelque chose qui est toujours vrai et faux du point de vue scientifique, ou alors c'est une banalité. Mais par contre, je crois que l'apport important de Dumézil et qui subsiste, c'est d'avoir montré que les mythes, par exemple le mythe de la gémellité, le fait que Romulus a un jumeau qui s'appelle Rémus, que les mythes qui sont liés aux origines de Rome sont des mythes indo-européens. Et cela permet de répondre à ceux, quand je dis ceux, c'est aussi celles et ceux qui ont pu dire et écrire, et qui l'écrivent parfois encore, que les mythes de Romulus et de Rémus, c'est des inventions tardives, 2e siècle avant Jésus-Christ, 1er siècle avant Jésus-Christ. Hein. Il y a des gens qui ont pu écrire que la légende de Romulus et de Rémus, c'est en fait une légende très tardive, même pas 4e siècle avant Jésus-Christ, mais finalement dans son élaboration de détails, 2e, 1er siècle avant Jésus-Christ. Eh bien, quand vous prenez en considération les démonstrations de Dumézil montrant que dans la légende de Romulus et de Rémus, c'est bourré de mythes indo-européens, eh bien, vous cessez de pouvoir considérer comme tardive cette légende. Et c'est déjà un acquis très important.
Vous avez parlé des influences indo-européennes.
Alors, je n'ai répondu qu'en partie à votre question.
Oui, sur la mythologie.
Oui, alors la mythologie comparée dans les années 60, parce que je dirais la diffusion de sa théorie, c'est surtout les années 60, à partir des années 60, ça a été un moment important. Ensuite, vous avez... il n'y a pas que l'archéologie, c'était le sens de ma réponse. Il n'y a pas que l'archéologie. Aujourd'hui, vous avez aussi beaucoup d'acquis du côté de la linguistique. Par exemple, en linguistique, un acquis encore tout récent que j'ai essayé d'exploiter sans être linguiste, sans être spécialiste de linguistique historique moi-même, je me suis aperçu, il y a à peu près de cela un peu moins de 10 ans, je me suis aperçu que du côté des linguistes, de mes collègues linguistes, le mot « ourps » était désormais considéré comme un mot d'origine indo-européenne. Et ça m'a fait songer que la réflexion sur l'étymologie de ourps avait toujours été un argument, si je puis dire, contre Romulus. Parce qu'on disait ourps, avant on disait ourps, c'est étrusque. C'est un mot étrusque. Puisque c'est un mot étrusque, les étrusques, on sait bien qu'ils sont arrivés après le 8e siècle avant Jésus-Christ, et surtout 6e avant Jésus-Christ. Ça prouve donc que Romulus est faux. Or, et là je n'ai fait que prendre acte d'un véritable consensus scientifique chez les linguistes, ourps est un mot aujourd'hui considéré comme indo-européen. Pour l'instant, ils ont l'air d'accord entre eux. Peut-être qu'ils vont changer d'avis. Mais pour l'instant, moi, je travaille avec les données dont je dispose, et ça m'a paru important de le mettre en lumière. Et d'autres recherches faites par d'autres collègues sur d'autres mots, le mot populus par exemple, qui veut dire armée dans le latin archaïque, sur tous les mots du vocabulaire augural, auspicium, augurium, sont des recherches importantes parce qu'elles montrent l'enracinement latin de toute une partie de la tradition sur Romulus. Donc il y a la linguistique. Vous voyez, la linguistique est importante. Il y a une variante de la linguistique qui est la toponymie. La toponymie, c'est aussi très important. Vous avez des endroits qui s'appellent... Qu'est-ce que c'est que ce nom de Roma? Vous voyez, il y a une porte de Rome qui s'appelle Romanula. Et la toponymie, on le sait bien, nous en France, que ça peut porter trace d'événements très anciens. Regardez, quand vous allez entre Paris et Orléans, vous avez un endroit qui s'appelle Alainville. Enfin, vous connaissez. C'est pas vous qui me parliez d'Orient. Non. Alors, vous avez, Alainville, ça s'appelle comme ça parce que au 4e siècle ou 5e siècle de notre ère, il y a sans doute un détachement de Alain, c'est-à-dire une peuplade d'origine asiatique qui s'est établie là. Hein. Vous avez sur le rivage normand, vous avez des tas d'endroits qui s'appellent Bretteville, parce que au 5e, quand les Bretons ont été chassés de ce que nous appelons l'Angleterre, ils se sont, ça je crois que c'est un exemple auquel vous serez sensible, ils se sont établis en Armorique et peut-être un peu jusqu'en Normandie, et d'où les noms, les toponymes comme Bretteville. Donc nous savons que la toponymie peut conserver des états très anciens de civilisation. C'est difficile de les dater précisément, mais parfois c'est possible. Et donc c'est pareil pour la toponymie de Rome et du Latium. Donc il y a la linguistique, il y a la toponymie, il y a l'étude des formules religieuses. Quand vous vous apercevez que par exemple, le formulaire religieux du 1er siècle avant Jésus-Christ, quand on dédie un autel, contient des formes qui linguistiquement ont disparu à la fin du 7e, début du 6e siècle avant notre ère, c'est quand même intéressant. Vous voyez, ça vous montre qu'il y a des formulaires religieux qui étaient conservés tels quels, au moins depuis l'époque archaïque. Et ça, ça peut se... Là, je fais allusion à une recherche récente d'un jeune collègue italien qui m'a fait lire son travail et qui est très convaincant à cet égard. Donc, vous avez... Voilà, résumons. Vous avez l'archéologie avec toutes ses techniques, c'est-à-dire la paléoclimatologie et tout ce qui va avec. Vous avez la linguistique, vous avez la mythologie comparée, vous avez la toponymie. Vous avez aussi l'anthropologie. L'anthropologie, pourquoi en Latium, à un certain moment, on enterre les gens assis. Ça, il y a quelques exemples. C'est très très surprenant. Ben, c'est l'anthropologie comparée qui a permis à la grande archéologue Anna Maria Bietti Sestieri, dans sa fouille de la nécropole de Gabi, près une vingtaine de kilomètres de Rome, du côté sur la route de Préneste, de trouver l'explication. Vous voyez. Donc, il faut mettre ensemble toutes ces disciplines. Et on s'aperçoit qu'au final, on en sait beaucoup plus que ce qu'on croyait ignorer, devoir ignorer, première chose. Et que deuxième chose, la tradition littéraire est littéraire dans la mesure où c'est une formalisation littéraire, mais elle contient nombre d'éléments, pas tous, hein, je suis pas en train de vous dire tout est bon, etc., mais elle contient beaucoup d'éléments qui viennent de très très loin, de très très haut dans le temps.
Alors, on arrive à la fin de notre émission, Alexandre Grandadi. Quelques mots sur votre ouvrage Urbs, Histoire de la ville de Rome, des origines à la mort d'Auguste, donc après les origines de Rome. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cet ouvrage ?
Alors cet ouvrage est différent et dans son amplitude bien sûr, parce que il fait 800 pages et que sais-je, doit se limiter aux 127 pages canoniques, bibliographie comprise. Mais il est différent aussi dans la mesure où le que sais-je est quelque chose qui présente les résultats, et parfois j'essaie tout de même de mettre au moins un résumé des débats. Et alors que le livre qui s'appelle Urbs se présente comme un récit. Donc le que sais-je est un exposé, j'espère le plus objectif. J'ai aussi fait place aux thèses que je n'adopte pas. Enfin, un exposé, je crois, objectif, neutre et le plus informé possible. Alors que Urbs se présente comme un récit. Je dirais presque, je ne veux pas dire un roman historique, parce que ça c'est une expression catastrophique, parce que quand on dit roman historique, ça veut dire histoire romancée, c'est-à-dire que c'est pas sérieux. Hein, donc, mais enfin, je dirais que j'ai emprunté à la fiction, à l'histoire, à l'écriture de la fiction, quelque chose, par exemple, le fait d'écrire au présent, pour que le lecteur se sente contemporain de ce qui est raconté. Donc, il y a une volonté de mettre le lecteur au cœur de l'histoire, que je ne pouvais pas me permettre parce que c'est pas les traditions et je n'en avais pas non plus la possibilité du point de vue tout simplement de la longueur possible dans le que sais-je, mais que j'ai essayé de mettre en œuvre dans Urbs, qui est pour ainsi dire qui essaie de faire revivre au lecteur le roman vrai de la Rome antique, même si encore une fois ce mot roman est très très périlleux d'utilisation. Mais j'ai essayé c'est un récit, C'est un récit qui, non pas qu'il élimine toute la part d'incertitude dans la science, mais il y a le récit et puis il y a les notes, elles sont pas en bas de page, elles sont dans la dernière partie de l'ouvrage. Et là, je dis attention, j'adopte telle version, telle hypothèse, mais il y a aussi telle autre hypothèse. Mais pour le récit, j'ai adopté une hypothèse. Et l'idée, c'est de faire vivre au lecteur, revivre pour ceux qui la connaissent déjà, mais vivre au lecteur une histoire romaine revue entièrement selon et dans les limites de la ville de Rome, ce qui n'avait, je crois, jamais été fait. Parce que j'ai toujours été frappé par le fait qu'on appelle l'histoire romaine une histoire où il est question de la Gaule, de la Palestine, de l'Angleterre, et où finalement la ville de Rome ne joue qu'un rôle parfois seulement accessoire. Moi, tout se passe à Rome. L'idée, c'est de montrer en quoi l'histoire romaine, partie de Rome, émanée de Rome, est revenue à Rome. Chaque conquête s'est traduite par un aménagement monumental. Donc, ce livre qui s'appelle Urbs, c'est un grand récit qui fait vivre l'histoire urbaine de la ville de Rome au fur et à mesure que cette ville de Rome, cette communauté romaine, étendait son emprise sur l'ensemble du monde connu durant cette antiquité. Bien sûr, les Romains savaient qu'il y avait un empire parthe, et ils savaient qu'il y avait aussi peut-être un empire chinois à partir du temps de l'Empire, mais ils n'avaient que des vues assez vagues sur la question. Par contre, le bassin méditerranéen, c'était l'horizon de leur monde, et cet horizon-là, ils l'ont dominé. Et montrer comment cette domination romaine sur le monde méditerranéen s'est traduite à l'intérieur intramuros du site romain par une évolution urbaine progressive a été mon objectif durant ce livre. Donc vous voyez, c'est un objectif tout à fait différent, parce que je ne me limite pas du tout aux origines, à cette réserve près qui a quand même 200 pages dans le livre. Oups, il y a 200 pages sur ce qui correspond au que sais-je. Hein, vous voyez, mais c'est transformé cette fois-ci en récit. Et j'avais plus de place, et encore une fois, l'angle d'attaque est différent. Et il date de 2017, et jusqu'à février 2017, il a intégré des résultats faits. Par exemple, janvier 2017, conférence de presse de la surintendance archéologique de Rome pour dire qu'on venait de retrouver un morceau grand comme la main, mais de paléosol du Comitium, c'est-à-dire la place publique de Rome. Et ce morceau date du milieu du 8e siècle avant Jésus-Christ, voyez. Ce qui prouve bien, et j'en reviens à une question que vous me posiez tout à l'heure, qu'est-ce qui a changé dans l'appréhension des origines de Rome et notamment de la fondation de Rome? Eh bien, c'est qu'on a fini par trouver, à partir des années 1988, on a trouvé un morceau de mur au pied du Palatin. Et ce morceau de mur, il date du milieu du 8e siècle avant Jésus-Christ. À partir de là, on ne pouvait pas, à moins d'être, je crois, quelqu'un d'assez étroit d'esprit, on ne pouvait pas rester, c'est ce qui m'a semblé en tout cas depuis cette date, on ne peut pas rester sur le jugement du 19e siècle tout est faux dans la légende de Romulus. Alors si tout est faux, pourquoi on trouve un mur voyez au pied du Palatin qui date du milieu du 8e siècle avant Jésus-Christ? Pourquoi on trouve un aménagement du Comitium qui date des années 730-700 avant Jésus-Christ? Pourquoi on trouve un dépôt votif sur le Capitole qui date lui aussi du pour bonne partie du milieu du 8e siècle avant Jésus-Christ? L'archéologie, finalement, nous oblige à changer l'ensemble de notre regard sur la tradition. Elle est comme un levier d'Archimède. Vous savez, Archimède disait « Donnez-moi un levier, je pourrais soulever la terre ». Eh bien, l'archéologie, elle ne se suffit pas à elle-même, mais elle oblige à reconsidérer toute cette tradition littéraire sur les origines de Rome. Et à partir de là, c'est comme ça qu'à partir de là, il faut aller vers la linguistique, il faut aller vers l'anthropologie, il faut aller vers la toponymie, il faut aller vers l'examen des rites religieux. Il faut reconsidérer notre jugement, le jugement de la science du 19e siècle et d'une bonne partie du 20e, qui disait dans la tradition sur les origines de Rome, tout est faux. Aujourd'hui, ce jugement, il n'est plus possible de le tenir. Alors ça exige un changement de nos paradigmes, et nous en sommes là aujourd'hui. Quels vont être les nouveaux critères, les nouvelles méthodes qui nous permettent à la fois de rester vigilants, de rester critiques, de ne pas être crédules, et en même temps de tenir compte de tout cet ensemble de nouvelles découvertes? Et je crois que c'est là la perspective qui s'offre à la recherche pour les décennies prochaines.
Au moins. Merci beaucoup Alexandre Grandazzi. Je rappelle donc le titre de vos ouvrages, donc Urbs, histoire de la ville de Rome, des origines à la mort d'Auguste, paru chez Perrin en 2017, et puis le livre qui a reçu également, je le précise, le prix Chateaubriand, et les origines de Rome, donc votre ouvrage donc a été publié aux éditions du PUF dans la collection Que sais-je pour la troisième fois en 2019. Un document, chers auditeurs, que je vous invite vivement à consulter et qui vous sera plus qu'utile si vous voulez rafraîchir vos connaissances sur la fondation de Rome et surtout vous initier à l'historiographie antique, si je peux m'exprimer ainsi, puisqu'on l'a vu durant toute l'émission que la démarche était essentiellement pluridisciplinaire. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité et à très bientôt pour une nouvelle émission Storia Voce.